France Inter, la voix est libre.
À 15h03 sur France Inter, c'est l'heure de Là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Et pourquoi le petit Valls s'est appelé Manuel? Bah parce que intellectuel, ça n'existait pas.
Oui, voilà, la nouvelle terrible vient de tomber. On est averti, c'est terrible. Je ne sais pas comment on va faire. Le pays va vivre un drame national, un traumatisme, une déflagration. Il n'y aura pas de match de football de Ligue 1 et de Ligue 2 du 29 novembre au 2 décembre à cause de la loi qui est passée sur la fiscalité pour l'imposition à 75% au-dessus de je ne sais pas combien. C'est terrible. Est-ce que la France va se relever de ce week-end sans football? C'est un cataclysme, c'est terrible. Et pendant ce temps-là, le Front National...
Bonjour, c'est Charles, 16 ans, du Var. Voilà, j'ai entendu à la radio que les clubs de foot français ont entamé une grève par rapport à la taxe à 75% des gros revenus. Moi, depuis que j'ai un an et demi, je vis dans des caravanes avec mes parents et mon frère, et on vit à 4 avec moins de 19 000 euros par an. C'est Charles, de Saint-Maximin à la Sainte-Baume.
Ce soir, c'est désespérant, monsieur Vermet, ce que je vais vous dire. J'ai trouvé dans les supermarchés ambiants du coin, là, j'ai trouvé au moins de quoi nourrir au moins une trentaine de personnes qui étaient jetées à la poubelle. J'aimerais bien que vous réagissiez par rapport à cela. Parce que cette nourriture-là, elle n'était pas du tout périmée. Elle était périmée dans 2-3 jours. Et moi, bon, ben, j'ai pu réussir à nourrir une vingtaine de bouches. Et c'est tout, quoi. Ah, c'est la nature, hein. La nature est terrible. En attendant, je suis quand même content, ce soir, d'avoir fait une triple journée de salaire grâce à ce que j'ai trouvé dans les poubelles de certains supermarchés. Voilà, monsieur Mermet. Ciao, viva Bella, la France.
Vendredi, pas de là-bas si j'y suis. Pour compenser le manque, j'écoute une vieille émission et là j'entends un message furibard d'un auditeur qui s'offusque qu'une émission de gauchiste soit financée par ses impôts. Pour rasséréner cet auditeur, au cas où il écouterait à nouveau cette émission, je tiens à lui signaler que le service public n'est pas le seul service qui soit financé par les impôts des contribuables. Deux exemples, l'Express, par exemple, le journal qui n'est pas du tout gauchiste et qui devrait beaucoup mieux convenir aux opinions de cet auditeur, reçoit chaque année 6 millions d'euros de subsides publics. Ça n'est pas grand-chose par rapport au Figaro, la propriété du pauvre milliardaire Serge Dassault, qui lui reçoit pas moins de 18 millions d'euros d'aide publique par an, donc de nos impôts. Je ne sais pas combien coûte là-bas si j'y suis, mais je doute fort qu'à l'année, elle coûte 18 millions ou même 6 millions d'euros. Donc finalement, les émissions de gauchistes, c'est quand même beaucoup moins cher que les journaux de droite, voire de très à droite.
I broke down and cried when I heard about Lou Reed.
Merci pour tous ces messages, cher... AMG, merci, merci. Beaucoup, beaucoup de messages au cours des longs week-ends où nous sommes séparés, chers amis. Mais on va se consoler aujourd'hui puisqu'on part pour toute cette semaine en Pologne. Pologne, plombier, miracle et gaz de schiste. Vous connaissez peut-être la phrase fameuse « L'histoire se passe en Pologne », c'est-à-dire « nulle part ». Rayé de la carte, puis ressuscité, puis à nouveau prise dans les griffes les plus terrifiantes de l'histoire du XXe siècle, la Pologne aujourd'hui est enfin libre et elle réussit enfin. La Pologne ne connaît pas la crise, investissement, croissance, flexibilité, c'est un modèle ou presque, presque parce que pour les 2 millions de Polonais qui ont dû émigrer pour survivre, pour les 14% de chômeurs sans indemnité, pour les retraités, pour les expulsés par la gentrification, finalement pour la majorité des Polonais qui commencent un peu à se lasser de regarder la scintillante vitrine ultralibérale, sans jamais pouvoir entrer dans la boutique. Voilà, aujourd'hui départ pour la Pologne. Pologne, plombier, miracle et gaz de schiste. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Le vent de la colère se manifeste enfin. La Bretagne se révolte. Et ce n'est pas terminé. De toutes parts, la colère gronde et se manifestera d'une façon ou d'une autre. Depuis le temps que le petit peuple de France souffre en silence, que ce soit les agriculteurs, les ouvriers, les salariés, les petits commerçants, artisans, les retraités qui, par leur faible pension, ne peuvent plus joindre les deux bouts, ainsi que tous ceux ou celles qui ont perdu leur emploi. Comment s'étonner que toutes ces personnes qui sont spoliées par l'État français depuis des années ne se révoltent pas? Non moratoire, et également, comme je l'avais annoncé, au diktat de Paris imposé par Bruxelles. Jean Annevers.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est André Marty de Amfreville dans le Calvados. J'appelle afin de vous prévenir, comme les journalistes en parlent si peu, il va y avoir un plan social monumental, un plan social qui concerne 1200 personnes qui vont être sur le carreau. C'est Huit Clos qui met la clé sous la porte. Huit Clos, l'entreprise dont certains ont profité avec l'argent des ouvriers. 1200 personnes vont être licenciées donc, voire plus. Allez, il fallait vous tenir au courant. Maintenant, vous le savez, à vous de diffuser l'information un peu partout. Merci, au revoir.
Ouais, hier j'ai écouté l'émission sur les Black Dragons et d'habitude elle me touche beaucoup et celle-là ça m'a fait vraiment bizarre parce que pour moi les Black Dragons c'était pas qu'un petit groupe là qui défendait la justice. Enfin il y avait des factions dissidentes qui devaient patrouiller pour embêter les gamins qui glandaient, qui partageaient pas les mêmes codes. Moi au McDo j'avais 12-13 ans, McDo sur les champs, je me suis pris une claque, je me suis fait prendre 10 francs, mon argent de poche à l'époque. Bah, je vois qu'il y avait des côtés positifs à ce groupe, mais bon, il y avait sûrement des factions dissidentes. Allez, bon courage.
Cause tempête, perdu, paire de couilles, région Camaret. Si vous les avez vus, contactez-moi au 01 56 40 37 37. Amen.
La moitié des familles, des ménages polonais, peuvent déjà se permettre d'aller au restaurant une fois par an.
Par an,
oui.
Une fois par an,
et c'était annoncé dans un ton triomphant.
Selon un cabinet d'audit de renommée internationale, la Pologne est en passe de devenir une nouvelle locomotive économique de l'Europe.
La loi de Ricardo est appliquée en Pologne. C'est-à-dire tu gagnes assez pour ne mourir pas de faim et pouvoir retourner au travail lentement.
Décidément, le plombier polonais est devenu le héros de la campagne sur le référendum, un héros en forme d'épouvantail. Les adversaires du traité leur présentent déjà déferlant sur la France la clé anglaise entre les dents.
Mais nous, on croyait qu'il y avait un miracle polonais.
C'est un miracle pour peu.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Chao, Pologne, plombier, miracle et gaz de schiste, un miracle pour peu.
Flight number 2, arriving from New York.
Merci Joseph.
Non mais il faut voir ça.
Ça c'est les statues soviétiques. Ça, c'est la statue soviétique, de la grosse, bonne statue soviétique.
Oui, parce que là, on a à côté, on a des statues traditionnelles des vertus, hein, hein, et à côté, on a une belle statue d'un travailleur.
Voilà. Musclé, musclore le travailleur. C'est musclore, le mineur.
Il a avec 5 ses... mètres de hauteur ou quelque chose comme ça, oui, peaux, facilement. Musclé.
C'est le plombier polonais. Hey, on a trouvé le plombier polonais en arrivant. Avec ses lunettes de mineur, là, il a une espèce de gros rouage métallique. Mais il tient ça du bout des doigts. Voilà. Donc, ça fait... C'est l'homme nouveau.
La classe ouvrière est présentée dans toute sa splendeur.
Ouais.
À côté, on a une dame Ça, je ne sais pas plus artistique, ce qu'elle a, c'est plus artistique.
Elle
tient
une lyre.
Une lyre, voilà.
Là, c'est
parce que là, on est au palais de la culture, quand même.
Là, c'est le palais de la culture et des sciences.
Qui vous a été offert
par Joseph Staline.
En 1954.
54.
Voilà. C'est vraiment...
C'est de la bonne qualité. C'est la pierre de taille. Dans 2000 ans, ce bâtiment sera là.
Ça, c'est du solide. Comment aujourd'hui tes compatriotes vivent, c'est un endroit comme ça. Là, nous, on ironise, on fait des rigolos, etc. Mais ça va, ça les gêne pas du tout. Enfin, ce passé, ce vestige, plus que ça d'ailleurs, stalinien, bon, ça fait partie de la culture, c'est intégré.
Moi, je pense
ça...
que la nouvelle génération s'en fiche. Parce que de toute manière, ceux qui sont nés après 89, eux, ils ne perçoivent pas du tout l'époque communiste comme nous. Ils ont déjà de la distance, ils n'ont jamais vécu ça.
Oui.
Ça, c'est pour eux, c'est de l'histoire. Ils sont maintenant dans la consommation. Ils veulent avoir la paix.
Monter leur petite entreprise, leur grosse entreprise, s'enrichir le plus vite possible.
Voilà, leur préoccupation, c'est les fringues, la mode, montrer sa position sociale par sa voiture, par la façon de s'habiller, etc. Donc paraître, c'est ça. Et maintenant, quand les gens peuvent, ils le font et ils le montrent. Ils montrent ce qu'ils ont.
Alors il y a exactement le même à Moscou, je suppose dans d'autres capitales des anciens pays de l'Est. Et ça, c'est le palais de la culture.
Le palais de la culture et de la science. On est face à l'entrée principale et sur notre droite, il y a un théâtre et sur notre gauche, il y a un autre théâtre.
Et en face, quand même, il y a toutes les enseignes de mode, de tout le commerce un peu mondialisé ou européanisé. Alors, il y a des grandes marques de fringues qu'on voit un peu dans tous les centres-villes, quoi. De fringues et d'électronique.
Et puis, au-dessus de tout ça, Coca-Cola. Bosch Coca-Cola, Hyundai...
Qualité. La qualité de tout.
Des cuivres magnifiques.
Du cuivre. Et on va voir partout
le bois.
Il y a
des trombeaux pour le prolétaire.
Oui, tout à fait.
Avec des pierres polonaises.
Oui, donc il y a le granit, il y a les granites et tous les coins de Pologne, en fait, qui ont servi à ça. Et on va essayer de trouver... Et donc là, on a l'ascenseur donc pour aller au 30e étage. On va voir le panorama en haut.
Hey. A gift from the nations of Soviet Union.
Il y a un
et en fait, on a une opératrice de l'ascenseur. Ça, c'est comme avant.
C'est pas un liftier, c'est une liftière. Il faut qu'elle appuie sur le bon bouton, bon moment. Là, elle a appuyé sur 30. Et on monte au 30e étage du Palais de la Culture, construit en 1955 et offert par Joseph Staline au peuple...
À la nation polonaise, oui.
À la nation polonaise.
Quelques jours en Pologne... Quelques jours à Varsovie, ce sera évidemment trop bref. Mais un siècle serait trop bref aussi pour prendre la mesure de ce qui s'est passé là, dans cette partie du monde et dans cette ville. Mais est-ce que quelqu'un un jour parviendra à expliquer, à permettre de digérer ce qui s'est passé là ? On dit que si vous serrez une poignée de terre de Pologne, il en sort du sang. Et ce qui s'est passé ici nous regarde toujours. L'idéologie néolibérale a imposé l'amnésie, l'immédiat, le tout de suite, sans queue ni tête. Mais si l'Europe avait été autre chose que l'Europe de la finance et du marché, si en effet on avait construit une Europe sociale, une Europe des échanges, une Europe d'une culture commune, eh bien, on aurait au moins posé une question sur ce qui s'est passé sur cette terre où le sang noir est à fleur encore. On se serait demandé, nous qui avons tellement confiance dans la connaissance, dans la culture, qui pour nous sont les moyens de la lutte contre la barbarie, contre la tyrannie, on se serait demandé, on se demanderait comment l'un des peuples les plus cultivés, les plus avancés, les plus civilisés a pu engendrer et faire ce qui s'est fait sur ces terres polonaises. On pourrait se demander le lien entre la civilisation et la barbarie. Ce serait un grand sujet. Il se pourrait bien que l'Europe, cette Europe-là, qui tourne pour nous au cauchemar, nous en empêche. Est-ce qu'elle tourne aussi au cauchemar pour les Polonais? C'est pas si sûr. Dans cette Euroland, qui ont eu la prudence de ne pas encore aller dans l'euro, ont l'air assez contents d'eux, du moins si on ne rencontre, si on croit ce que l'on rencontre dans des endroits confortables, si on lit une certaine presse. On va voir en faisant quelques pas hors du centre touristique et le centre des affaires de la ville que les choses sont un peu différentes. Mais d'abord, on va monter dans cet endroit incroyable qui est le Palais de la Culture et de la Science, qui, vous avez compris, est un cadeau fait par le grand petit-père des peuples, c'est-à-dire Joseph Staline, aux Polonais en 1955. Presque un testament pour Joseph Staline. Il avait gâté les Polonais en leur offrant ce gratte-ciel, le plus grand d'Europe à l'époque, le plus haut d'Europe à l'époque, comme semblable à ceux de Moscou. Le phénomène, c'est que on a essayé, après la chute du mur, après l'effondrement, l'implosion du camp communiste, de détruire cette tour, ce palais de la culture, et puis on a renoncé, et puis petit à petit, eh bien la vie, l'histoire, les Polonais, les habitants de Varsovie ont récupéré totalement cet endroit et ils l'habitent et en font un lieu de culture, un lieu, un repère, au point qu'aujourd'hui le symbole de Varsovie, eh bien c'est le palais de la culture de Joseph Staline, la tour Eiffel de Varsovie est là devant nous, elle n'est même pas devant nous, on est dedans, on grimpe au 30e étage, c'est jusqu'à 16h, ou presque, c'est là-bas si j'y suis, à Varsovie.
Magnifique. Là, ça devient rose bleu.
Voilà. Mais dis-nous, c'est très boisé, c'est très vert. C'est la Vistule là-bas.
Voilà, c'est la Vistule.
Le fleuve. Est-ce qu'on est capable d'imaginer à quoi ressemblait ce qu'on a sous les yeux en 1945, quand 85% de la ville a été détruite? 85%. C'est-à-dire que tout ce qu'on a sous les yeux, voilà, il y a 15% qui sont restés. Voilà.
Voilà. Donc il y a les bouts de mur, en fait, qui sont restés. Par exemple, là, sur notre gauche, tout ce château qui a été reconstruit il y a 25 ans peut-être.
Varsovie est à nos pieds.
Chaque année, il y a un nouveau gratte-ciel qui est construit, un ou deux, selon.
Regarde cette vision. En plus, il se trouve qu'il y a un gars qui est penché, qui regarde le paysage avec sa capuche, qui découpe sur ce ciel.
De ce côté-là, là, vous verrez les gratte-ciels polonais. Donc, on veut être Chicago de l'Europe de l'Est. Un peu, donc on construit...
Le Chicago de l'Europe de l'Est, oui.
Donc on voit un centre commercial très à la mode, un peu pour une élite, hein, parce que c'est pas donné, qui s'appelle les Terrasses Dorées. Et il est un petit peu, le toit, il est en forme d'une vague.
Là, on voit avant, après. Nous, on est chez Staline, là. Hein. On est au 30e étage de chez Staline. Et on regarde le Varsovie d'après, le Varsovie néolibéral. Le Varsovie bling-bling, le Varsovie chic, le Varsovie de la finance, de l'intercontinental,
des fonds européens.
Et des fonds européens.
Voilà, tout ça, tout c'est fait construit avec des fonds européens. La dernière, c'est la gare centrale qu'on voit là. Donc les gros travaux qui ont été faits l'année dernière, tout ça, c'est financé avec des fonds européens.
Et c'est une façon pour l'Europe d'avoir le pouvoir sur le pouvoir politique polonais.
Oui, et aussi sur la société civile.
Mais le résultat de tout ça, c'est bon ou c'est mauvais ?
Ben, y a de l'activité, les gens ont de quoi vivre, et il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été créées, les gens se sont enrichis.
Ils se sont enrichis en moyenne, c'est-à-dire avec une classe moyenne supérieure, et puis une grande pauvreté aussi en Pologne.
Oui, y a, bien sûr, il y a les écarts qui se sont creusés. Ça n'a rien à voir avec la Pologne des années 1970. Parce qu'à l'époque, déjà, la consommation était extrêmement réduite. Donc, il y avait les sociétés d'État qui produisaient à peu près les mêmes types de produits. Et on consommait tous la même chose. Donc, on avait les niveaux de salaire entre une femme de ménage, un ingénieur ou un professeur à l'université. Les écarts étaient ridicules. Les gens vivaient dans les mêmes immeubles. Il y avait vraiment l'égalité qui avait... un poids énorme sur la liberté, et aujourd'hui c'est devenu le contraire. Donc on a jeté un petit peu le bébé avec l'eau du bain, avec tout ce qui est financement de la culture, tout ce qui concerne l'éducation, les avantages sociaux, etc., etc. Et par contre, on a donné la liberté totale à l'individu, la liberté d'entreprendre, et on a dit c'est la propriété privée, c'est la nouvelle religion, c'est sacré. Donc on dit c'est maintenant... C'est inimaginable. Ici, l'allocation chômage ne dépend pas de ton salaire. Pour les gens qui ont travaillé, avaient un contrat moins de 5 ans, c'est 50-40 zloty, donc ça veut dire genre 130 euros par mois durant 6 mois, point. Peu importe si tu gagnais 4000 zloty ou 6000 zloty ou 3000 zloty, tu touches 540 zloty par mois pendant 6 mois. Donc, que veux-tu faire avec ? Rien. Donc, tu es obligé de te remuer pour trouver quelque chose, peu importe ce que c'est. Donc, c'est ça le système social polonais d'aujourd'hui.
C'est rude.
Oui. Après, par exemple, mes amis français, ils disent, mais oui, mais vous êtes courageux, les Polonais, vous vous remuez quand même. Moi, je dis, mais on est obligé, sinon tu crèves. Donc, c'est vraiment la jungle.
Et on crève.
C'est-à-dire, les problèmes, c'est surtout le problème de logement. On n'avait pas de SDF en Pologne. Ben aujourd'hui, il y en a plein. Et il y a des expulsions à des familles entières avec des gosses, des personnes âgées, etc. La nouvelle mode dans les villes polonaises, les collectivités territoriales, c'est de construire les baraquements en métal, vous savez, comme pour des conteneurs, parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer, donc c'est des fainéants. Donc on va leur mettre des conteneurs à la place des logements sociaux. C'est inhumain. Mais idéologiquement, beaucoup de gens considèrent que c'est normal. Si tu ne payes pas, c'est que tu ne veux pas travailler. Donc c'est l'imaginaire collectif que c'est comme ça.
La Pologne, c'est 20 ans de croissance continue, contrairement au reste de l'Union européenne. Un dynamisme dû ces 5 dernières années notamment aux travaux effectués en vue de l'euro 2012.
France 24.
Mais le vent semble malheureusement tourner.
16 novembre 2012.
Une fois la fête du foot terminée, l'économie polonaise a commencé à s'essouffler et conséquence, les prévisions de croissance ont été revues à la baisse. C'est pour inverser cette courbe que le gouvernement entend poursuivre sa politique de grands travaux, quitte à creuser le déficit budgétaire un peu plus que prévu. pour financer ces chantiers.
Là, on est où
Donc là, on est à Varsovie, rive droite. Le quartier s'appelle Praga Północ, ça veut dire Praga du Nord, parce qu'il y a aussi Praga Południe, Praga du Sud. Et donc Praga Północ, donc c'est un quartier le plus pauvre de Varsovie. Donc c'est,
on est en plein cœur de Varsovie, là.
On est en plein cœur de Varsovie.
Mais dis donc, les immeubles s'effondrent complètement, là.
Ben oui, ce sont les anciens quartiers populaires et ouvriers. D'ailleurs, on voit les usines désinfectées en briques rouges, là, avec des cheminées, les voilà, fiches, en friche.
Et là, tu dis que les loyers ont augmenté brusquement.
Voilà, au Litterschwetzka, donc il y avait plusieurs immeubles de reprivatisation. Donc probablement, ça va être comme dans le centre de Varsovie, que ça va rester vide. Et par contre, les gens, on va les expulser, donc...
Là, tu penses que les gens... On peut peut-être parler avec... Bonjour.
Klebek. Nie mam, ale zaraz pani dam jakiś pieniążek na ten klebek.
C'est une population esquintée. La dame, elle est esquintée. Il y a un gars derrière, là, qui est à moitié dans les ordures.
Donc là, vous voyez que, en fait, ça tombe en ruine et les gens qui habitent ici sont... Sont pauvres, donc on a quand même les maisons où il y a les fenêtres ont été changées. Donc après, chacun se débrouille comme il peut, donc c'est selon les situations. Il faut savoir que dans ce quartier-là, les jeunes, quand ils peuvent, ils partent. Ils partent à l'étranger, ils travaillent beaucoup à l'étranger. Donc après, des fois, ils envoient des petites sommes d'argent pour que les gens puissent s'améliorer un petit peu.
Alors, il y a des bureaux de change partout, dans tous les quartiers. On voit des cantors, c'est des bureaux de change, c'est ça. Donc, c'est pas du tout pour les touristes qui viennent ici dépenser leurs euros. C'est pour les travailleurs qui sont partis, qui se sont ont émigré, quoi.
Quand ils envoient l'argent, les gens s'ouvrent des comptes en euros, vu que maintenant, dans chaque banque, on peut avoir des comptes en euros, pour ne pas perdre en taux de change. Donc, ils les changent ensuite dans les cantors, parce que la banque, elle prend des très grosses commissions.
Oui, parce que les 2 millions de jeunes Polonais qui sont partis, ils vont vivre ailleurs mieux, espèrent-ils, mais ils doivent renvoyer de l'argent au pays aussi.
Voilà.
Bien sûr.
Donc, bien sûr, ils envoient l'argent au pays.
Pour nous, ça, c'est les Africains qui font ça. Mais ici, c'est les Polonais. C'est les Polonais.
Bah oui, malgré le miracle polonais, 2 millions environ de Polonais, plutôt jeunes, ont quitté leur pays pour aller vivre ailleurs, ont émigré. Le polonais est la deuxième langue parlée à Londres, par exemple. Alors on dit que certains reviennent parce qu'ils sont très attachés à leur patrie. En tous les cas, ils sont partis. Il y a aussi une chose qui se passe à Varsovie. Là, on est dans ce quartier Praga, un quartier extrêmement pauvre, mais qui se passe à Varsovie comme dans beaucoup de villes dans le monde. Avec le système de la mondialisation, eh bien, le creusement des inégalités s'opère au niveau, évidemment, des revenus, mais aussi du logement. Et la ségrégation sociale est aussi une ségrégation spatiale qui sévit partout. On voit à Paris la gentrification générale de la ville, l'élimination des modestes et... également, à Varsovie, on assiste à cette expulsion de la classe populaire par ceux à qui ces politiques ultra-libérales profitent. Un profit, un miracle pour peu, comme disait notre interlocuteur. Alors contre ça, il y a des gens, des jeunes, mais pas seulement des jeunes d'ailleurs, qui se mobilisent et qui luttent contre les expulsions nombreuses à travers la ville et qui s'organisent et qui font des squats et qui essayent de tenir solidement, de s'organiser, de lutter. Et là, on va dans un squat de l'association Sirena.
No gods, no masters.
Reclaim the city.
Znajdujemy się w budynku, który został zreprywatyzowany.
Nous nous trouvons dans un bâtiment qui a été reprivatisé.
Ponieważ on ulegał stopniowemu zniszczeniu, popadał w ruinę, został przejęty jako squat na różne inicjatywy społeczne.
Et que puisqu'il était vide et il se dégradait, les associations de la ville l'ont occupé.
Quelles sont les associations qui occupent le lieu ?
Ici, on est tous informels. En fait, on occupe ce bâtiment à cause de la politique de la ville, quoi. Il n'y a pas où vivre, il y a une privatisation sauvage.
À quoi ça ressemble cette ville en ce moment ?
Ici, à Varsovie, avant la guerre, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, cette ville était en 97% privée. Pendant la guerre, Varsovie était complètement détruite. Et après la guerre, il y avait un gros problème de logement. D'après les documents de l'époque, les gens qui sont rentrés sur Varsovie, ils ne pouvaient pas attendre. Ils voulaient avoir un lieu où habiter, donc oui. Ils ont commencé à reconstruire tous ces bâtiments eux-mêmes. On appelle ça le fait social. C'était la ville qui gérait, qui était l'administratrice et le propriétaire de tous ces logements, donc de logements publics. Oui. Et donc, dès qu'on a eu cette transition au marché ouvert, au capitalisme, la propriété privée est revenue. C'est les derniers 10 ans que ça a vraiment commencé. En fait, le grand problème, c'est que cette privatisation ou reprivatisation n'était jamais gérée par l'État. Donc, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de régularisation, il n'y a rien qui dise comment est-ce qu'on va gérer cette question. Donc, du coup, la spéculation est possible. Il y a des entreprises qui ont acheté des titres de propriété, pas juste un seul bâtiment, mais de 60 bâtiments ou de 100 bâtiments, à qui je ne sais pas. La première chose qu'ils font, c'est expulser les gens, pas rentables, des gens âgés qui ne peuvent plus prendre un crédit. Donc, ils sont jetés dans la rue. Et ici, cette association donne des conseils juridiques, mais aussi, on est dans l'action directe parce qu'on n'a pas d'autre choix. Donc, en fait, on bloque les expulsions. Donc, on vient à plusieurs personnes, peut-être une cinquantaine de personnes, et on protège la personne contre se faire expulser dans la rue.
Et ça concerne combien de familles, combien de logements à peu près aujourd'hui ?
Donc, l'année dernière, on a su que ça concernait 1920 bâtiments au centre-ville.
Logements ou immeubles ?
Bâtiments, immeubles.
Quelle est la part qui a déjà été reprivatisée ?
À peu près 40% est déjà reprivatisée. La ville, en ce moment, elle est en train de repasser en main des très riches.
Alors, vous êtes tous les jours sur le front ou...
C'est pas tous les jours, mais c'est très souvent. C'est plusieurs fois par semaine.
Ah oui.
Et ça continue sans arrêt.
Qu'est-ce qui se passe, Martha ?
Il y a une visite de police en civil. Bon. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là. Mais il y a une personne qui habite avec sa petite fille. Qui vient de Kenya. Et donc là, je pense qu'elles ont un peu paniqué. La police les menace depuis hier, en fait. Donc là, ils viennent de revenir. Et je pense, si on y va tous ensemble, peut-être eux, ils vont paniquer. On y va.
Bon, on va participer à un blocus à la réunion. Et puis on va rentrer, voilà, dans un appartement.
Monsieur demande de ne pas être enregistré parce qu'ils sont la police en action.
Donc là, il y a une discussion, c'est ça, ils sont en train de discuter.
Voilà. Ils disent que la dame, elle les a laissés entrer. C'est une locataire sauvage, comme tous les autres ici. Donc le monsieur qui vient d'arriver, il est locataire sauvage aussi. Et il est en train de discuter avec deux policiers en civil. Pourquoi ils sont arrivés ici? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils ont pu entrer? Parce que c'est quand même un lieu privé et qu'ils n'ont pas à être là. Les policiers viennent d'amener des chaussures pour la gamine. Donc le locataire, il dit que c'est la première fois qu'il voit des flics qui viennent et qui apportent des choses pour les enfants.
Pour les aider. C'est les gentils flics, alors.
En tout cas, c'est ce qu'ils disent.
Dans le
bon, ben, ça y est, ils sont partis.
C'est une blague. Ils ont fait une liste des choses dont elle avait besoin. Et donc, ils ont constaté qu'elle avait besoin des chaussures pour sa fille, un livre pour sa fille et un nouvel appartement. Et donc, ils sont venus en tant que citoyens pour lui aider.
Ils viennent comme ça, soi-disant pour aider. Après, ils sont 10 à venir et ils sont beaucoup moins gentils. Donc, il n'y a pas de confiance, en fait.
Et comment s'appelle cet endroit, alors ?
Squat Selena.
Alors, ouais, il y a des peintures partout, là.
Excellent, excellent.
Il y a un portrait de Jola Breska, qui est une des figures des mouvements des squats, des occupations, et qui a été, semble-t-il, assassinée en février 2011. Elle a été retrouvée brûlée vive dans un bois à l'extérieur de Varsovie.
Kiedyś przyniósł nam swą rączkę, a na rączce tej obrączkę. Siostra leży z lewej strony, z prawej Heniuś przyduszony, a ja w środku ukojony, odpoczynek zasłodzony. A ja w środku ukojony, odpoczynek zasłodzony.
Alors ici, c'est quoi ici ?
C'est une association qui s'appelle l'Agence de justice sociale. Tous les gens qui viennent ici, ils deviennent membres d'une petite société, communauté, qui s'aide mutuellement. C'est-à-dire, si tu as des problèmes avec l'électrique, si tu as des problèmes avec tes enfants, quelqu'un de l'association vient et résout les problèmes sans être payé.
Oui. Vous êtes combien ? Ça fait un réseau de combien ?
À Varsovie, c'est auprès de 800 personnes.
Ah oui, quand même !
Oui, oui. Mais on a demandé dans plusieurs occasions des subventions. Ils nous ont refus parce que nous sommes de gauche.
Qui vous a dit non ?
Les autorités ?
Être de gauche, c'est pas un crime quand même.
Ah, c'est pour n'être pas subventionné.
Il est connu, Piotr Ikonowicz, il est connu à travers toute la Pologne, il est connu à Varsovie, il intervient assez souvent à la télévision, et c'est un lutteur social. C'est un lutteur social qui anime cette agence de justice sociale qu'il a créée. Il a été journaliste. Il a travaillé pour l'agence polonaise de presse, pour Solidarność aussi. Il a été très présent. Il a cofondé le Parti Socialiste Polonais en 87. Il a été arrêté. Il a eu des tas d'histoires lors des grèves ouvrières de 87. Bref, c'est un homme engagé, qui continue le combat et comment, une sorte de local assez exigu dans un sous-sol d'un quartier pauvre de Varsovie. Il reçoit les gens qui ont des problèmes, c'est-à-dire beaucoup de gens, et il essaye en avocat aussi qu'il est, de les sortir de là et d'organiser une résistance sociale pour la justice sociale. Alors actuellement, Piotr Ikonowicz est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour blocage d'expulsion. Les expulsions, on vient de voir ce que ça constitue actuellement à Varsovie. Et lui, il s'est opposé à une de ces expulsions. Et donc, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt.
Nous avons comme 30% des working poor, des travailleurs qui sont pauvres, hein. C'est une chose très, très américaine. Même les gens étaient convaincus qu'ils sont coupables de leur destin. Maintenant, ça change. Et les tabous des impôts est rompu. C'est-à-dire, 56% des Polonais enquêtés répondent qu'ils voudraient bien payer plus d'impôts si l'État devient plus social. Parce que nous avons une situation où l'opposition et les pouvoirs sont de droite. Il n'y a pas de gauche. Il n'y a pas de gauche en Pologne, officiellement. La gauche officielle sont les libéraux.
C'est à cause du passé communiste du pays ?
Les post-communistes sont des traîtres. C'est-à-dire, ils étaient à l'avant-garde de créer le capitalisme ici. Hein. Ils sont les plus privilégiés par la privatisation. Alors, je dirais que ça qui a dit Marx, que l'État, c'est un comité exécutif des intérêts de la bourgeoisie, Pologne, c'est exemplaire. Hein. Les partis de pouvoir et les partis d'opposition sont contre l'opinion publique dans sa majorité. Et seulement 13% des chômeurs reçoivent la location chômage qui ne suffit ni pour couvrir les additions de l'appartement.
Qui ne permettent même pas de payer le loyer.
Même ça. Les restes, ils travaillent dans des conditions d'esclavage.
C'est-à-dire, c'est quoi les conditions d'esclavage ?
C'est-à-dire, sans contrat, et ils ne sont pas sûrs s'ils seront payés, remboursés.
Dans quel domaine ? Dans quel domaine ?
Construction, les services de protection de sécurité privée. Et il y a quelques 300 000 polices privées, disons.
Ah bon ?
Oui, oui.
Il y a une telle insécurité en Pologne ?
C'est le troisième monde. C'est le troisième monde. Oui. Et ils gagnent 1 euro par heure, par exemple.
Mais nous, on croyait qu'il y avait un miracle polonais.
C'est un miracle pour peu. 20% des plus pauvres dépense 132% de ce qu'ils gagnent. C'est-à-dire, ils entrent en dette et sont victimes de l'usure parce qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre un crédit aux banques, parce qu'ils n'ont pas des contrats de travail propres. Et il y a un nouveau type de fascisme social.
De fascisme social ?
Oui, c'est-à-dire, pour faire les gens souffrir, il faut les priver des aspects humains.
Oui, oui.
Alors, la moitié des familles, des ménages polonais, peuvent déjà se permettre d'aller au restaurant une fois par an.
Par an.
Oui.
Une fois par an au restaurant.
Et c'était annoncé dans un ton triomphant. La loi de Ricardo est appliquée en Pologne. C'est-à-dire, tu gagnes assez pour ne mourir pas de faim et pouvoir retourner au travail le lendemain.
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le Premier ministre polonais, Donald Tusk. Merci d'être avec nous. Bonjour, Monsieur le Premier ministre.
Bonjour.
France 24.
On se demande un peu quelle est la recette de ce miracle polonais.
Les Polonais sont de nature optimiste.
11 janvier 2010.
Les Polonais ont survécu à des vraies crises. Ils survivent à des crises depuis 60 ans. Et les Polonais, en général, sont pleins d'énergie, pleins de foi, que l'on peut, même dans des circonstances difficiles, surmonter les crises. Je crois que ce sont les raisons principales pour lesquelles nous avons pu éviter cette récession.
Piotr, quand tu dis ces politiques néolibérales, elles sont imposées aux populations, mais en fait, contrairement à ce qu'on raconte, l'opinion, les populations n'adhèrent pas, quoi, subit et sait qu'elle subit.
Je dirais qu'il faut comprendre et même appuyer tous ceux qui votent pas. Parce que voter en Pologne avec le système des partis présents signifie seulement choisir cette partie qui nous fera du mal. Alors c'est une humiliation. Il faut éviter cette humiliation et s'organiser. Il n'y a pas de société civile en Pologne. Il n'y a pas de démocratie des partis parce que la grande majorité ne connaît personne qui est membre d'un parti politique. Hein? Alors nous sommes contre les systèmes de capitalisme politique pro-socialiste démocratique. Alors il faut réclamer la justice sociale, il faut réclamer un État providence et une solidarité sociale. Et avec ça, on peut commencer à créer un mouvement et engager la population dans la politique. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui sont exploités, qui sont humiliés, et qui sont dominés, deviennent des citoyens et pas des sujets. Et ça, c'est le but.
Talam, 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 talam.
Et si tu reviens à la déclaration des droits de l'homme de l'ONU, là, tout ça que nous demandons, pas plus.
Quand tu emploies des mots comme socialisme, Marx, capital, etc., aujourd'hui, après la chute du communisme, comment s'est reçu ces mots-là dans ton pays, en Pologne ?
J'ai étudié l'économie au temps communiste, et tous les manuels d'économie avaient quelques pages avec lettres petites, qui était intitulé « Autre théorie marginale ». Et c'était l'économie de l'Occident. Et dans ce temps-là, l'économie marxiste-léniniste était appelée l'unique science économique. Tout ça qui n'était pas marxiste n'était pas scientifique. Maintenant, il y a des études d'économie qui sont libéraux et personne n'écrit rien avec des lettres petites. Et même l'économie du marché libéral, c'est l'unique science, et ça qui ne l'est pas, n'est pas scientifique.
C'est ça.
Alors, ils ont changé dans le cerveau une fiche électronique du marxisme-léninisme à néolibéralisme. Mais les mécanismes de monoculture intellectuelle et dogmatisme restent comme ça. Oui, ils sont restés. C'est le slogan pour stopper la privatisation de chauffage public à Varsovie. On a collecté les signatures sur ce slogan.
Donc ça, c'est une pancarte que vous avez derrière votre bureau,
oui.
Hein.
Oui, oui, le bureau de justice sociale s'est signé là-bas.
D'accord. Qu'est-ce qu'il y a marqué ?
Si tu veux pas avoir le chauffage plus cher, signe pour le référendum qui arrêtera la privatisation du SPEX.
SPEX, c'est le chauffage urbain.
Le chauffage
urbain.
Public de Varsovie, oui. Et municipal.
Mais ça a été privatisé malgré tout ?
Parce que les signatures n'étaient pas reconnues. Pour éviter à tout prix le référendum, parce qu'il était bien clair que la majorité de la population aurait voté contre la privatisation. Alors, ils ont délégalisé nos signatures, disons que ça ne va pas. Hein.
Et voilà, c'est une entreprise française qui a remporté le marché, c'est Dalkia, qui est une branche de Veolia.
Mais les prix étaient très bon marché. Il était plus au moins les profits, parce que c'était profitable. L'entreprise publique ici, de chauffage, prix était un ou deux ans de profit de cette entreprise. Parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour les stades sportifs, pour des bêtises, et il manquait de l'argent, alors ils vendaient ce qu'ils pouvaient.
Ah !
Pour équilibrer le budget de la ville.
Ah, ce très très beau stade qu'on voit.
Il y en a deux, hein. Il nous manque seulement apprendre à jouer au foot.
Ouais, c'est plus, il n'y a plus que ça. Mais quand on a le stade, on a...
Ça réchauffe hein, quand même de faire du sport. Donc si...
ouais, il faut s'échauffer en courant. Oui.
Mais c'était quoi? C'était la Coupe d'Europe?
Coupe d'Europe, Euro, oui.
C'était l'Euro 2012, d'accord.
C'est intéressant. Euro 2012, la ville de Varsovie dépense un pognon fou, n'a plus d'argent pour réinvestir dans le chauffage, dans le système de chauffage, dans la compagnie de chauffage public, et donc vend sa compagnie de chauffage public à une entreprise française, Veolia, Dalkia. Et voilà comment ça marche le business.
Oui, malheureusement.
Ça ferme là, hein ?
Oui. Oui, ça ferme.
Il faut que Robin Desbois se repose aussi de temps en temps. Donc là, on sort avec toi du bureau et peut-être que tu vas te faire arrêter là, sur le palier, quoi. De
oui, pourquoi pas.
Tu veux qu'on en sorte en éclaireur?
Non.
T'as pas besoin,
mais... Non, ils ont peur, hein. On va provoquer la détention. Les lundis. Ah ouais.
Ah
on
oui.
va préparer tôt, oui.
À lundi prochain, tu veux...
Lundi, oui, je vais faire une faction publique et les obliger à me détenir. À m'arrêter, oui.
L'herbe humaine.
merci. Piotr Ivanovitch, son association. Merci à Eva Suffin, traductrice, que vous avez entendu, qu'on va entendre toute la semaine dans ce voyage en Pologne. Pologne, plombier, miracle et gaz de schiste. Un reportage de Antoine Chao et de votre serviteur. À noter aussi l'association Sirena qui nous a reçu, Martha, que vous avez entendu. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Vous pouvez également écouter cette émission sur là-bas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Nicolas Slimani et Alexandre Chenet. Au montage, Guillaume Giraud. Et l'émission a été réalisée par Jérôme Chelius et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Mes amis français, ils disent, mais oui, mais vous êtes courageux, les Polonais, vous vous remuez quand même. Moi, je dis, mais on est obligé, sinon tu crèves. Donc, c'est vraiment la jungle.
Et on crève.
On
se retrouve demain à 15h en Pologne, la suite. Je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Faut te mettre, les gars.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est l'Aïd, hein.
Ah, c'est l'Aïd. Ouais. Et pourquoi? Vous voulez pas parler? Mais c'est pour ça que vous avez mis des belles tenues.
Ouais, exactement.
C'est la fête du mouton. C'est la fête du mouton,
ouais. Oui, c'est la fête du mouton, mais c'est le mouton qu'on égorge, c'est
ouais,
ça?
Voilà, exactement.
C'est une drôle de fête pour lui.
Ouais. Et pour vous, c'est manger, faire la fête en famille. Voilà.
Et pourquoi vous êtes retrouvés tous, là? C'est
la convivialité, en fait. C'est ça, c'est la fête.
C'est les retrouvailles.
Ouais. Et là, vous mettez là, il y a une magnifique vue sur Paris.
Exactement, là, on prend des photos.
Ah, c'est des souvenirs. La chance, c'est le soleil.
Mais vous habitez ici?
Sur Paris, oui.
Ah, d'accord. Et en fait, mais vous fêtez ça à la mosquée ou ailleurs?
Non, on va faire la prière ensuite, on se rejoint entre amis, en famille.
Et je peux juste avoir votre prénom?
Okay. Moi, c'est Mouhtar. Moi, c'est Libas.
Bon, ben, je vous souhaite une bonne fête, alors.
C'est la Tabaski chez nous, on dit la Tabaski.
À Tabaski.
Ouais, bonne fête des Tabaski.
Bon, bonne fête des Tabaski, alors.
Ouais. Merci à vous aussi. Hein.
Ben, je vous en prie. Bonjour à tous et bienvenue au parc de Belleville où on fête l'Aïd. Et vous, monsieur, vous faites quoi?
Moi, je photographie les belles tenues.
Ah, ça vous intéresse aussi? Vous photographiez pas Paris?
Oui, aussi, mais il y a un peu de brume, là.
Un peu de brume, ah oui.
Eh oui.
Vous avez un petit accent?
C'est vous qui avez un accent.
Ah oui, pardon, vous avez raison. À chaque fois, j'oublie.
On n'a pas du tout d'accent.
Vous venez d'où?
D'Helvétie, du royaume d'Helvétie.
Ouh, le royaume d'Helvétie. Tout un programme. Et vous, monsieur?
Je suis son frère et collègue, je viens aussi des bas-fonds d'Helvétie.
Les bas-fonds d'Helvétie? Mais qu'est-ce qui vous amène des bas-fonds d'Helvétie sur les hauteurs de Paris?
On vient voir les monuments. On vient voir les monuments pour les détourner.
Vous détournez
la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et tout ça.
Vous détournez les monuments?
Oui, oui. Pas physiquement, mais en photo.
Ah, d'accord. C'est pour ça que vous avez votre appareil à la main?
Voilà, oui, parce que la Tour Eiffel, elle rentrait pas, ni l'Arc de Triomphe ne rentrait pas dans la camionnette. Donc on est obligé de se contenter d'une photographie.
Si vous faites un effort, vous savez, la Tour Eiffel, c'est que des bouts de métaux. Vous les dévissez et puis vous pouvez mettre ça. Vous voulez la reconstruire dans votre royaume d'Helvétie?
Oui, mais à l'envers alors, posé sur la tête.
Ah oui,
oui.
Voilà alors, comment on détourne.
Plus dynamique.
Ah, pourtant, là, je trouve ça un côté fusée. On a l'impression que ça va partir dans l'espace.
Voilà, on a surtout l'impression que le compte à rebours est terminé depuis très longtemps et qu'elle n'a toujours pas décollé.
Ça, c'est vrai.
Je suis déçu parce que j'entendais voir le dôme boule à neige qu'il y a au-dessus.
Ah oui.
Au-dessus de la Tour Eiffel. Donc,
oui, je comprends.
On l'a enlevé alors? Qu'est-ce qui se passe?
Non, c'est parce que là, on le voit pas. Mais ce qu'il faut, c'est remuer le dôme. Et après, on voit la neige qui tombe. Mais si personne ne remue le dôme, vous voyez, on voit pas. Le verre est très bien nettoyé. Vous savez, à Paris, tout est bien entretenu. Bon, et comment ça vous est venu, cette idée de détourner les monuments?
En regardant des anciennes cartes postales, en sépia des choses 1900, puis on s'est dit qu'on aimait bien la carte postale, attaquer le poncif, bon, on en parle, la tour Eiffel, et on a commencé chez nous, nos propres villes.
Quel était le premier monument que vous avez détourné chez vous?
C'était l'avenue Léopold Robert, la plus grande avenue de Chaux-de-Fonds. On a fait une journée porte ouverte dans la rue.
Je vois, c'est une carte postale où il y a tout le monde est dehors.
Voilà. Ouais, ouais. Kermesse, tout le monde est dehors.
Donc toutes les portes sont ouvertes. Et tout de suite, vous vous êtes dit, on va arriver à gagner notre vie comme ça en détournant les monuments?
Ah non, pas du tout. À côté de ça, on faisait du graphisme, de la photogravure, de la menuiserie, toutes sortes de choses. Voilà, on a commencé avec une surface de bureau d'un demi-mètre carré.
Et aujourd'hui, vous avez 2000 mètres carrés?
Non, on a bien 8 mètres carrés. Non, ah peut-être, ouais. Non, on a 100 mètres carrés peut-être. Enfin, un bureau, ouais. Normal, quoi.
D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, vous vivez de ça? Vous faites plus de menuiserie?
Non, mais des fois, on aimerait bien.
Ça vous manque?
Ouais.
Mais aujourd'hui, vous êtes des artistes à part entière?
Moi, je ne me qualifie pas d'artiste, ouvrier, artisan, mais pas artiste, non.
On vit de ce qu'on fait, donc on est heureux. On n'a pas à faire d'autres boulots alimentaires.
Ouais, vous êtes pour le secret bancaire?
Non, pas forcément.
Non.
Non, parce que ça coûte des milliards et des milliards à la planète. C'est une connerie monumentale.
On a un compte en France, quand même. Ah. Au cas où.
Ah, vous avez un compte en France?
Et on n'en a pas en Suisse.
Ça, je peux pas le croire.
Si, c'est vrai. On est juste au CCP, ce qu'on appelle le machin de la Poste. Ouais.
Ah,
mais,
oui.
Mais en Suisse, on n'a pas de compte en banque. Et on en a un en France.
Vous êtes à quelle banque?
À la Popu.
Oh, bah, dis donc, ils doivent être fiers. Regardez les Suisses qui ont un compte chez eux. Et je peux avoir votre nom?
Oui, Plonk.
Et vous?
Replonk.
Ah, Plonk et Replonk.
Voilà.
Et c'est un pseudo?
Non.
Non?
On est né comme ça.
Vous êtes né comme ça. Ben, si on veut en savoir plus sur votre travail, c'est pas compliqué. Plonk et Replonk, de 0 à Z chez Webeck.
Un temps de pochon.
Un temps de pochon.
Un temps de pochon.
C'est terminé pour aujourd'hui. À demain.
À demain.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité avec Maxime Deps.
En Syrie, le travail des inspecteurs de l'OIAC, compliqué par l'insécurité. Les hommes de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ont du mal à faire leur travail sur place. L'insécurité sur place empêche en effet des inspections sur deux sites d'armes chimiques. C'est ce que déclare aujourd'hui l'OIAC. La Syrie, où est arrivé aujourd'hui l'Akhdar Brahimi, l'émissaire des Nations Unies, vient d'atterrir à Damas, où il doit entamer la phase la plus délicate de sa mission, organisée en novembre, une conférence internationale pour la paix. 5 morts dans une fuite de gaz en Espagne aujourd'hui. Une fuite survenue dans une mine de charbon. Ça s'est passé près de León, dans le nord-ouest du pays. En France, une femme est quant à elle portée disparue. Depuis ce matin, elle a été emportée, happée par une grosse vague dans le secteur de Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, secteur qui avait été placé en vigilance orange à l'approche de la tempête Christian. Tempête qui, depuis, a fui vers le nord de l'Europe, mais qui, en quelques heures, a tout de même eu le temps de causer des dégâts sur son passage. En Bretagne, en Normandie, dans le Nord, environ 40 000 foyers sont encore cet après-midi privés d'électricité. ERDF s'emploie depuis ce matin pour rétablir le courant partout. Il faut abandonner l'écotaxe, selon les industriels français. Ce nouvel impôt, qui doit s'appliquer aux poids lourds à partir du 1er janvier, s'ajouterait à une pression fiscale déjà record et pénaliserait le Made in France. C'est ce qu'écrit aujourd'hui le groupe des fédérations industrielles dans un communiqué aujourd'hui. Ajourner l'écotaxe, selon ses patrons, serait donc la meilleure des solutions. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, doit justement présenter des propositions aujourd'hui à Matignon pour limiter l'impact de ce nouvel impôt, notamment sur les filières agroalimentaires. L'écotaxe, avec cette manifestation qui a mal tourné samedi à Quimper, un homme a eu la main arrachée par une grenade lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Pourquoi avait-il cette grenade en main? Quelles étaient ses intentions? C'est notamment ce que devra déterminer l'enquête ouverte aujourd'hui par la justice. Cet engagement, cette garantie apportée par Vladimir Poutine, aujourd'hui le président russe assure que les athlètes au JO de Sochi se sentiront bien, quelle que soit leur orientation sexuelle. À 100 jours du début de ces Jeux, les critiques s'amplifient contre une loi dirigée contre les gays en Russie. Le Masters de Paris-Bercy, top départ aujourd'hui. Les meilleurs joueurs du circuit ont rendez-vous toute cette semaine. 12 Français sont en lice et le premier à être entré en piste cet après-midi s'est incliné. Jérémy Chardy a été dominé par le Tchèque Lucas Rosol en 2-7, le score 6-3, 6-4.
Tous les soirs, à partir de 21h,
rock, pop, electro, R&B,
les soirées musicales d'Inter.
Hip-hop, garage, grime, metal, bass music, new wave.
Du lundi au jeudi,
Cosmic Fantasy.
Retrouvez Barbara Carlotti.
Un voyage cosmique dans l'hyperespace de la musique.
New wave, no wave, chill wave.
À 22h, Aurélie Sfez.
Avec vous, Baptiste Etchegaray.
Et oui,
techno.
Des comédiens qui chuchotent à l'oreille des musiciens.
House.
Des artistes qui font l'amour avec des artistes.
Ghetto house.
Parce qu'on est ouvert la nuit.
Grunge, black metal, Norwegian metal.
À 23h15.
On n'oublie pas, hein, là.
Laura Lichmann.
Du nouveau de tous les styles, tous les genres, tous les styles, tous les genres, tous les styles.
Et 2 heures d'addiction le vendredi à 21h.
La mauvaise habitude du vendredi soir.
Avec Laurence Pierre.
Prenez de l'altitude et bon voyage.
Retrouvez les soirées musicales d'Inter.
Les programmes.
Les rendez-vous.
Sur franceinter.fr.
France Inter.
À 16h04 sur France Inter, bien sûr, c'est Frédéric Lodéon qui vous accompagne pour Carrefour de Lodéon.
Et merci Maxime Debs, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, quelques nouveautés. D'abord, un disque de la violoniste Janine Janssen qui emmène ses amis autour de Jean-Sébastien Bach, des concertos, certains qui sont absolument confirmés, d'autres qu'on a dû reconstituer, comme le concerto pour hautbois et violon. On a perdu le manuscrit, c'est ballot. Et puis, on a perdu aussi le manuscrit du concerto pour deux clavecins, d'après lequel on a reconstitué celui qu'on va entendre. Ça n'est pas simple. Enfin, vous voyez, on a presque tout perdu, sauf l'essentiel. Finalement, la musique de Bach est toujours là, énergique, tonique, pleine d'élan, pleine de force, et Janine Janssen nous entraîne là avec ses amis dans un beau tourbillon. Thank you. Allegro final du concerto pour hautbois et violon en ut mineur de Jean-Sébastien Bach par Janine Janssen au violon et ses amis, parmi lesquels je cite le hautboïste, bien sûr, Ramón Ortega Cuero. Mais voilà un joli disque Jean-Sébastien Bach paru chez Decca. Et Madame Diana Damrao, elle, c'est pas à ses amis qu'elle dédie son disque, c'est à ses enfants. Elle nous parle de son monde intérieur, notamment tout ce qu'il a touché quand elle était plus jeune et encore aujourd'hui, donc des chants de Vienne, de Broadway, de Hollywood. Et c'est très charmant. Voici par exemple de Harold Arlen, le magicien d'Oz, ah oui, célébrissime, tiré d'un roman.